Le journal vous est présenté par Guillaume Fariol.
8 millions d'électeurs appelés aux urnes. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali aujourd'hui. D'un côté, Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant, ultra favori. De l'autre, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. La campagne de l'entre-deux-tours a été marquée par des accusations de fraude. À cela, il faut ajouter l'absence quasi totale de suspense. Résultat, les Maliens ne se passionnent pas pour le scrutin. À Bamako, Marie Matigo.
Les dés semblent déjà jetés, tellement l'avance du président sortant est importante. Au premier tour, Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli deux fois plus de voix que son rival, Soumaïla Cissé, et il bénéficie également de la prime au sortant. Jusqu'à aujourd'hui, au Mali, un président n'a jamais perdu sa réélection. Le chef de file de l'opposition a dénoncé des fraudes, à cause notamment de taux de participation étonnamment élevés dans certaines zones du centre et du nord, pourtant marquées par l'insécurité. Mais il n'a pas réussi à mobiliser autour de lui un front anti-Ibeka. De toute manière, pour beaucoup de Maliens, Soumaïla Cissé a du mal à incarner le changement. Il est de la même génération politique qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux ont même été ministres côte à côte dans les années 90. Au premier tour, la participation n'a été que de 42,70% et elle risque d'être encore plus basse au second tour à cause de ce désintérêt, à cause aussi de la saison des pluies qui complique les déplacements et à cause également de l'insécurité. Au premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir dans le centre et dans le nord du Mali. Le gouvernement espère bien faire baisser ce chiffre et pour cela, il a déployé des hommes supplémentaires. Au total, 36 000 membres des forces de défense et de sécurité seront mobilisés aujourd'hui.
Et hier, les services de renseignement maliens ont intercepté un commando à Bamako. Trois hommes, ils planifiaient des attaques dans la capitale pendant le scrutin. À Washington, néo-nazis et antifascistes manifestent en même temps aujourd'hui. Un rassemblement sous très haute tension. Un an après le drame de Charlottesville, un suprémaciste blanc avait foncé dans une foule de contre-manifestants et tué une jeune femme. 400 néo-nazis sont attendus aujourd'hui. Les antifascistes devraient être bien plus nombreux. Plusieurs marches pacifiques organisées hier dans les principales villes du Nicaragua. Des rassemblements pour réclamer la libération de dizaines de prisonniers incarcérés pendant les manifestations contre le président Daniel Ortega ces derniers mois. Des manifestations durement réprimées. 300 personnes ont été tuées depuis avril. Des rassemblements également en Roumanie, dans les rues de Bucarest. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier pour un deuxième jour d'affilée. Les manifestants protestent contre les bas salaires et la corruption qui gangrène le pays. Ils dénoncent également les violences des forces de l'ordre qui ont émaillé la manifestation de la veille, celle de vendredi, donc 450 blessés. Ces débordements ont suscité de nombreuses réactions politiques, Kathleen Comte.
Le chancelier autrichien Sébastien Kurz a condamné ces violences et demandé des clarifications sur les circonstances dans lesquelles plusieurs journalistes ont été blessés. Sur son compte Twitter, on pouvait lire « La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des libertés fondamentales de l'Union européenne qui doivent être protégées de manière inconditionnelle ». Le président roumain de centre droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire de gauche, a fustigé l'intervention brutale et disproportionnée des forces de l'ordre et demandé au parquet général d'ouvrir une enquête. Mise directement en cause, la ministre de l'Intérieur Carmen Dan a assuré que les gendarmes avaient agi en respectant la loi pour défendre les institutions de l'État. En tout, 6 personnes, dont 3 gendarmes, étaient toujours hospitalisées ce samedi dans un état qui n'était pas jugé inquiétant.
Les explications de Kathleen Comte pour France Culture. Après le Canada, l'UE demande à son tour des explications à l'Arabie Saoudite sur l'arrestation de plusieurs militantes féministes. La Commission européenne annonce avoir contacté Riyad pour obtenir des éclaircissements sur l'affaire. En début de semaine, le Canada avait vivement critiqué l'incarcération de militants des droits de l'homme et des femmes dans le royaume. Les autorités saoudiennes avaient décidé d'expulser l'ambassadeur canadien de leur pays. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, lauréat du prix Nobel de littérature en 2001, voyageur invétéré, l'écrivain britannique V.S. Naipaul est mort hier. Il avait 85 ans. Il était un géant dans tout ce qu'il a accompli. Il est mort entouré par ceux qui l'aimaient, écrit son épouse dans un communiqué en lui décernant le prix Nobel. L'Académie suédoise avait qualifié V.S. Naipaul d'écrivain cosmopolite et de tourmondiste littéraire. Allez, cette fois c'est la bonne. Après avoir retardé de 24 heures le lancement de la sonde Parker, la NASA doit envoyer dans la matinée son engin spatial vers le Soleil. C'est la première fois qu'un appareil s'approchera aussi près de notre étoile, à 6 millions de kilomètres. Autant dire qu'à l'échelle astronomique, c'est une toute petite distance. Le but de cette mission, c'est notamment de comprendre l'origine des vents solaires, mais aussi la différence de température entre la surface de l'étoile et sa couronne. Explication de de Sophie Bécherel.
Le rêve d'Icare, c'est ainsi que Thierry Dudoc de Witte, astronome à l'Université d'Orléans, qualifie la mission Parker.
Il y a quelque chose de mythique là-dedans. Il y a une part de rêve qui fait que cette mission est à quelque chose quand même d'exceptionnel.
Même Eugène Parker, 91 ans aujourd'hui, est impatient. C'est lui qui, en 1958, a théorisé l'existence du vent solaire. Lui qui a proposé que le soleil crachait des jets de matière au point de former une couronne ultra chaude.
C'est un voyage dans un endroit où personne, absolument personne n'est allé. Bien trop chaud pour que n'importe quel engin spatial puisse fonctionner. Mais une ingénierie très intelligente a permis d'aboutir à ce qui ressemble à une mission tout à fait réalisable.
La mission de la sonde Parker est de mieux comprendre le Soleil en allant au plus près. Notamment pourquoi il existe une si grande différence de température entre la surface du Soleil et la couronne à 1 million de degrés. Sacha Brun, chercheur au CEA.
La surface du Soleil est à peu près à 6000 degrés, alors que la couronne monte à des températures beaucoup plus élevées. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est comment cette couronne se transforme en un vent continu de particules.
L'idée est de pouvoir suivre d'ici quelques années la météo solaire au quotidien, car ces tempêtes de particules, quand elles atteignent la Terre, peuvent causer d'importants dégâts au fonctionnement des satellites et aussi au réseau électrique.
Sophie Bécherel, décollage de Parker prévu à 9h31 de Paris. La sonde s'élancera de Cap Canaveral en Floride. La météo de ce dimanche, attention dans le sud-ouest, prudence, 6 départements sont en alerte orange aux orages dans la région toulousaine, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Ailleurs, ce sera du soleil partout ou presque. Quelques pluies sont attendues sur la Bretagne et la Normandie. Côté température, forte hausse du mercure dans la moitié nord de la France. 30 à Paris, 28 à Lille, 29 à Strasbourg. Il fera 29 à Perpignan, 33 à Toulouse, 30 à Marseille.